On prend le temps cet été, on se pose. On va parler tourisme, animation et culture dans l'estival du local. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire de l'été sur l'autre radio, l'estival du local. Notre objectif, c'est de vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font bouger la Mayenne en juillet et en août, avec de nombreuses animations et propositions touristiques, culturelles ou sportives, mais aussi historiques. Cette semaine, on remonte loin dans le temps à Sauges, grâce au musée de la préhistoire en Mayenne, une époque lointaine à comprendre grâce aux nouvelles technologies. On va swinguer aussi cette semaine grâce au festival Jazz Oignon, deuxième édition à Laval ce week-end dans le quartier Saint-Vénérand. Et puis on jette un coup d'œil au ciel, pas que à la météo, Non, mais aux étoiles, dans le cadre si particulier du musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien. Pour commencer, place aux mammouths, peaux de bête et silex, au musée de la préhistoire en Mayenne, à Sauges. Quelques clichés, qu'on a peut-être un peu tous en tête, dont vous pourrez vérifier l'authenticité ou à l'inverse vous débarrasser grâce à la visite de ce musée très interactif créé en 2017. Sur le site des grottes de Sauges, lieu d'accueil de nombreuses populations au paléolithique, il y a 25 000 ans à peu près, je vous propose donc une petite visite des lieux avec l'un des responsables du musée.
Donc Anthony Robert, je m'occupe des collections et des développements. Numérique. Donc c'est un site qui est complètement atypique dans le Grand Ouest de la France, puisque à cet endroit-là, on a un paysage de canyon, même si c'est pas réellement un canyon, mais d'un point de vue géologique. Mais il y a 22 grottes et abris qui sont connus. Il y a des endroits qui ont servi à la vie quotidienne, et puis il y a des endroits qui étaient des grottes ornées, où là on allait pour d'autres raisons, vraisemblablement plus en lien avec des croyances. Donc c'est complètement unique dans le Grand Ouest de la France d'avoir non pas une, mais deux grottes ornées, puisqu'on a la grotte Mayenne Science, qui ne se visite pas, mais qu'on peut découvrir dans une salle du musée. On a une salle de projection où on l'explore grâce à un modèle reconstitué en 3D. Et par contre, vous avez l'autre grotte ornée, qui s'appelle la grotte Margaux, qui elle est fréquentée par les visiteurs depuis les années 1870 à peu près. C'est seulement à partir des années 2000 qu'on a des archéologues qui étaient conduits par un archéologue qui s'appelle Romain Pigeot. Et ils ont trouvé qu'en fait, il y avait plein de dessins un peu partout, qui ont beaucoup patiné avec le temps, qui sont devenus extrêmement durs à lire, mais qui sont bien là. Donc là, les gens peuvent visiter une vraie grotte ornée, ce qui est de plus en plus rare. Les dessins sont gravés dans la paroi, donc c'est moins fragile que ceux qui sont avec des pigments. Et on peut en montrer quelques-uns. C'est à partir des années 2000 qu'il y a un programme du CNRS qui a été lancé pour la recherche concernant les occupations paléolithiques de la vallée de l'Erve, paléolithique supérieure, à l'époque du dernier maximum glaciaire, donc l'époque à laquelle les gens avaient une vie de chasseurs-cueilleurs nomades, que dans l'environnement vous aviez des mammouths, des rhinocéros laineux, des rennes, des chevaux, des mégacéros, toute cette faune-là, et puis c'est l'époque de l'art des cavernes. Hein. Et du coup, il y avait deux grottes qui ont fait l'objet d'investigations principalement. Il y a la grotte Margaux, donc là c'était de la prospection sur les parois pour voir s'il y avait des dessins, et des dessins, il y en a finalement beaucoup. Et il y a la grotte Rochefort, où là, le sol a été fouillé. Et les archéologues, finalement, se disaient que là aussi, ça avait dû être touché un peu trop au 19e siècle, ont eu la chance de trouver quelque chose de quasiment intact. Derrière vous, vous avez deux crânes qui sont des répliques en résine, hein, puisque c'est extrêmement rare d'avoir des vestiges osseux humains de ces époques-là, avec les deux humanités qui étaient présentes au paléolithique à cette époque sur le site de Sauges, dont on a des traces. À gauche, un homme de Néandertal, et à droite, un homo sapiens. Ici, on a des restes d'ours, restes de bouquetins. On avait des bouquetins, et d'ailleurs, une des plus belles plaquettes gravées représente un bouquetin qui a été retrouvé dans la grotte. On a des animaux qui étonnent, puisque là, vous voyez une canine d'un chat. Un chat, c'est pas un chat à l'époque des mammouths, quoi. C'est pas l'image qu'on a dans les animaux de cette époque-là. Et il y a différents animaux, comme les sangliers, qui ont été retrouvés alors qu'on pensait qu'à ces époques-là, il n'y en avait plus. D'après les différentes espèces végétales qui ont été retrouvées dans les bois aussi, hein, dans les charbons plutôt, il était possible de déterminer qu'il y avait vraisemblablement une forêt boréale à proximité. Donc ça venait certainement venir renforcer l'attrait de tout cet endroit avec sa rivière, ses grottes. En plus, si on a une forêt derrière, un peu zone refuge pour des espèces rares, voilà, ça devait faire de cet endroit un endroit très particulier. Sauges est aujourd'hui préservé pour sa faune et sa flore, qui est très particulière. Et les archéologues sont assez convaincus qu'en fait, c'était déjà très particulier, la faune et la flore du site et de son environnement à cette époque-là, et que ça a pu contribuer à l'attrait de cet endroit pour ces gens qui y revenaient constamment, en fait. Tout ce qui est paléolithique vient de Sauges. Autant quand on passe au néolithique, ça va plutôt se situer dans le Nord Mayenne, les allées couvertes, tout ce qui est dolmen, les choses comme ça. Là, vous avez un aperçu de ce à quoi peuvent ressembler les représentations dans la grotte Margot, avec un moulage de la paroi, d'une des plus belles représentations, qu'on appelle le cheval Thibaut, hein, c'est le prénom de celui qui l'a trouvé, Thibaut. On a des différents éclairages qui sont possibles, qui servent à montrer que finalement, la vision qu'on a de la gravure est aussi très variable suivant l'éclairage dont on dispose. Différentes représentations qu'on a dans la grotte, avec des chevaux, comme celui qu'on vient de voir. Et alors nous, là où ça tranche un peu, c'est qu'on a les oiseaux, donc ils sont présents en grand nombre.
Donc là, en fait, on a un dispositif qui permet de découvrir le patrimoine de cette grotte, bien qu'on ne puisse pas aller dans la vraie. Donc pour ça, il y a plus de 40 000 photographies qui ont été prises. Et à partir de ça, maintenant, il y a des logiciels qui permettent de reconstituer le modèle 3D de la grotte, et donc d'avoir quelque chose de très fidèle.
À votre tour, partez sur les traces de Roger Bouillon, à la découverte de la grotte Mayenne Science. Ce n'est pas un vrai mammouth qui est représenté, mais l'idée que l'homme préhistorique s'en faisait. Les spécialistes sont cependant d'accord pour dire que ces images représentent des mythes ou des légendes qui pouvaient être racontées lors de cérémonies ou de rituels.
D'ailleurs, il est important de penser à réserver. Et on a aussi des animations en extérieur qui s'appellent les Caps Préhistoire.
Bonjour, je m'appelle Anne-Claire et du coup, je suis guide conférencière et médiatrice du patrimoine ici aux Grottes de Sauges. Alors effectivement, on est sur un campement préhistorique. On a deux tipis qui ont été créés exprès pour l'occasion. On a des facsimilés effectivement alimentaires et des facsimilés d'armes, puisqu'on parle de l'alimentation au paléolithique supérieur et également au néolithique. On présente justement qu'est-ce qui a été mangé, qu'est-ce qui a été chassé. On essaie de chasser un petit peu les clichés qu'on peut avoir sur ces périodes de la préhistoire, hein, c'est-à-dire l'homme et la femme préhistorique qui mangent que de la viande. On a finalement pas tant de clichés que ça auxquels on pourrait s'attendre. Bon, c'est vrai que le mammouth est beaucoup cité comme nourriture, mais finalement on est quand même sur un public qui redonne sa place et la bonne place à l'alimentation et même aux hommes et aux femmes préhistoriques, donc c'est plutôt agréable. Bonne surprise, oui. On explique les techniques de chasse pour les deux périodes, donc paléolithique supérieur et néolithique. Quelle est un peu l'évolution, comment les armes fonctionnent. Donc on montre, on fait des démonstrations, donc c'est assez impressionnant pour certains. On explique vraiment toute la technique, comment elles sont créées et comment elles sont utilisées également par les hommes et les femmes de la préhistoire.
Le paléographe, on va voir maintenant. Ça a été installé fin 2020, c'est disponible pour le public depuis 2021. Et c'est une sorte d'œuvre d'art numérique interactif qui fait écho entre l'art numérique d'aujourd'hui et l'art des cavernes. Donc ça, on est vraiment dans le lien entre le plus ancien et le plus récent. Donc je vous invite à le découvrir.
Pour la distinguer d'elle, et pourtant suffisamment pour savoir que c'est une autre. L'ours s'avance en direction du fond de la caverne.
Toute la surface est tactile, mais sur cette scène-là, c'est uniquement la partie du petit volant là, qui permet de se diriger dans la grotte.
Votre curiosité vous pousse à la suivre, ou peut-être bien aller.
Donc là, c'est le module de dessin. Alors là, en cherchant un peu, vous allez pouvoir trouver les dessins des grottes de Sauges. Donc n'hésitez pas à aller passer vos mains un peu partout. Et là, vous en avez partout à découvrir. Des dessins des animaux qu'on a dans nos grottes. Puis là, on sait qu'il faisait beaucoup d'empreintes de mains dans les grottes. Donc là, on peut faire les mains. Donc c'est quelque chose qui est unique, hein, puisque à part à Zurich, il faut aller à Zurich pour avoir un dispositif similaire, mais qui en plus n'est pas utilisé dans un contexte de musée de préhistoire. Hein. C'est plutôt de l'art contemporain, là, pour le coup, dont il s'agit là-bas.
Le paléographe, un dispositif unique en France, à découvrir au sein de ce musée de la préhistoire. Ouvert à Sauges tous les jours cet été de 10h à 18h, la réservation est conseillée pour la visite des grottes en appelant le 02 43 90 51 30. Et puis de la préhistoire, on passe directement au XXe siècle avec les débuts du jazz, que vous pourrez revivre et entendre ce week-end à Laval, plus précisément dans le quartier Saint-Vénérand, puisque c'est là que va se dérouler le festival Jazz Oignon. Après une première réussie en 2019, il revient pour une deuxième édition ce samedi et dimanche, avec au moins une dizaine de groupes sur scène, plus tous ceux qui pourront se créer à l'occasion. L'événement fait la part belle à l'improvisation et à la participation de tous, évidemment de tous les musiciens, comme l'explique le président de l'association organisatrice.
Donc je suis Klaus Walkstein, banjoiste de jazz Nouvelle-Orléans depuis plus de 50 ans maintenant. J'ai commencé au banjo et j'ai continué au banjo. Je fais partie de plusieurs orchestres jazz Nouvelle-Orléans dans la région, mettons comme ça, voire même au niveau national. J'ai joué beaucoup, même jusqu'aux États-Unis. Et donc, ça, c'est le côté fun. Et puis, mon côté professionnel. Donc, aujourd'hui, je suis retraité de... Enfin, j'étais enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Et j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire du jazz. Je fais des recherches sur l'histoire du jazz et les tout débuts du jazz Nouvelle-Orléans. Donc, aujourd'hui, voilà, donc je m'occupe de ce festival... Jazz Oignon, alors on a choisi ça pour trois raisons. Alors d'une part, parce qu'ici dans notre quartier, ici à Laval, quartier Saint-Vénérand, on avait jusqu'il y a une petite dizaine d'années une foire aux oignons qui a disparu. Et donc on a voulu faire un clin d'œil à cette ancienne tradition de la foire des oignons qui avait lieu dans le quartier Saint-Vénérand et dans la rue du Pont de Mayenne. La deuxième raison est qu'il existe un fameux morceau de jazz qui a été rendu célèbre, notamment par Sidney Bechet, qui s'appelle « Les oignons ». Donc ça collait bien. Et puis la troisième raison, effectivement, lors de mes différents voyages à la Nouvelle-Orléans, je me suis rendu compte qu'à la Nouvelle-Orléans et la cuisine créole, on adore les oignons. Donc alors voilà, donc il y avait trois raisons pour appeler ça « Les jazz oignons
». Qu'est-ce qui a poussé la création du festival en tant que tel ?
Alors, finalement, ça a commencé par un défilé qu'on avait fait suite à une fête de jardin. Alors bon, autrefois, on faisait chez nous, à la maison des fêtes de jardin, on invitait des musiciens de jazz un peu de partout, voire même des États-Unis. Et puis donc, en 2018, peut-être qu'on avait déjà bu un petit verre, je ne sais plus trop. En tout cas, on avait pris la décision de sortir du jardin et de faire un défilé dans la rue du Pont de Mayenne. Et du coup, il y avait tellement de gens qui se sont groupés autour de nous qu'on s'était arrêté dans l'un des bars. Et donc, on a commencé à faire la musique devant le bar et puis il y avait beaucoup de monde. Et puis donc, les gens, ils nous disaient « Ah, mais ça, c'est dommage que vous ne faites pas ça régulièrement et tout. » Et donc, avec les représentants des cinq orchestres régionaux qui étaient là, on a dit « Bon, l'année prochaine, on va faire un festival. » Voilà. Et donc, ce qui a donné lieu, donc, en 2019, au premier Jazz Oignon dans le quartier qui a eu un succès fou.
Première édition, ça marche très très bien. Évidemment, l'année dernière, ça n'a pas pu être possible à cause des raisons sanitaires. Donc, très content de revenir cette année, j'imagine.
Bah oui, bien sûr, oui, parce que l'année dernière, effectivement, comme vous dites, donc on a été annulé à deux reprises. La date initiale, donc du mois d'août, a été annulée parce que c'était juste le moment où la Mayenne était sous les feux des projecteurs, on peut presque dire. Nous avons annulé. Et donc, on avait repoussé ça au mois d'octobre 2020. Ça devait avoir lieu, du coup, à l'intérieur, dans la salle polyvalente. Et finalement, malchance, la veille du concert est tombé le reconfinement national. Finalement, cette année-là, donc 2020, nous n'avons strictement rien fait. Pas faire vraiment de programme pour l'après-midi, mais les musiciens s'installent par-ci, par-là, ils vont faire quelques morceaux, après ils vont 50 mètres plus loin, devant un bar, à côté d'un restaurant, sur une placette, enfin, donc le samedi c'est ça. Et puis le samedi soir, donc il y a les concerts d'ouverture. Alors il y a un premier concert d'ouverture à 17h, c'est l'avant-première, donc avec notre invité spécial Eric Luther à la trompette, qui est le fils, pour ceux qui connaissent un peu le vieux jazz, qui est le fils du fameux Claude Luther. Eric Luther qui sera avec nous. Et donc l'avant-première, donc de 17h à 18h, donc c'est avec le University Hot Jazz Band de Nantes. Mais les gens après, donc ils pourront aller manger chez eux ou ici dans le quartier. Donc il y a de multiples possibilité de se restaurer dans les bars, les restaurants, les sandwicheries. Et donc ensuite, il y a le concert d'ouverture proprement dit, entre 20h et 22h30 environ, qui aura donc lieu toujours dans le même quartier Saint-Vénérand, dans la cour de l'école Alain, où il y a un grand podium. Ces deux concerts-là sont les deux concerts qui sont payants, sachant que le grand concert d'ouverture de 20h à 22h30, on va servir la soupe à l'oignon, voilà, à l'entracte. Pour les billets, donc on peut prendre les billets donc à l'office de tourisme, voilà, à la librairie M Lire de Laval. Et puis donc le dimanche, alors là ça va bouger beaucoup à partir de 10h30 du matin. Donc on va avoir quatre podiums finalement, ou quatre lieux de musique. Il y aura toujours le grand podium dans la cour de l'école Alain, mais il y aura trois tout petits podiums autour de l'église Saint-Vénérand, sur les parvis de l'église, où il y aura du jazz tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y aura la musique non-stop, et puis la rue du Pont de Mayenne, elle sera piétonne le dimanche. Donc il va y avoir des groupes aussi qui jouent dans la rue directement, et puis il y a les restaurateurs, etc., etc., qui vont s'installer. On peut manger, donc ça c'est très important, on peut manger à la louisianaise. Il y aura donc notre stand associatif, qui va proposer donc alors des red beans and rice, c'est le plat traditionnel de la Nouvelle-Orléans, haricots rouges et riz, alors en version veggie, végétarien, voilà, en version saucisse fumée, ça c'est le plat vraiment le plus typique, il va y avoir du chili, il va y avoir des hot dogs forcément, la soupe à l'oignon, il y aura cette année un vendeur d'oignons, et puis surtout aussi dans la rue du Pont de Mayenne, donc il y a plusieurs sandwicheries et restaurants et bars, donc qui eux aussi proposent des repas un peu inspirés aussi cuisine louisianaise créole. Donc alors venez manger, écouter la musique en même temps. Donc ça se passe entre 10h30, 11h environ, jusqu'à 18h, avec une grande parade finale dans la rue avec tous les musiciens. C'est un festival amateur ouvert à tous les musiciens, c'est-à-dire si vous avez un instrument, clarinette, trompette, saxophone ou autre, et vous savez un tout petit peu jouer au moins un When the Saints Go Marching In ou quelque chose comme ça, surtout n'hésitez pas, venez et faites le bœuf avec nous. Voilà, donc c'est fait pour. C'est un peu la fête de la musique du jazz.
J'imagine que c'est aussi l'occasion pour ceux qui connaissent pas du tout le jazz, ou même peut-être pas du tout le quartier, ou ni l'un ni l'autre, de venir découvrir les deux lors de ce week-end.
Ah ben oui, évidemment. On découvre le quartier, parce que même pour les Lavallois, il y a beaucoup de Lavallois qui connaissent très mal le quartier, parce que bon, quand on est Lavallois, on ne bouge pas forcément tout le temps dans tous les quartiers. Donc c'est un quartier historique, très très joli, donc avec des maisons moyenâgeuses, post-moyenâgeuses, une superbe église, des rues avec des pavés et tout. Donc c'est très très cosy, ça donne envie de rester, de flâner. Et donc pour les gens qui viennent de l'extérieur, mais ils découvrent le quartier, ils découvrent Laval en même temps. Mais pour les autres, ils découvrent souvent un jazz qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils connaissent du jazz plutôt moderne, souvent en disant on n'y comprend rien, c'est trop intellectuel. Alors que là, ils découvrent les racines de la musique du jazz, qui est une musique populaire, très très populaire, presque dire une musique d'harmonie le plus souvent, avec les parades de rue et tout ça. Et donc ils découvrent un jazz, mais hop, qui donne envie de chanter, de frapper dans les mains, de, de danser. Donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui découvrent et qui sont émerveillés finalement par cette musique-là.
That's all that I can say. I love you, baby, I love you. The same old words I'm saying in the same old way. I love you, really love you. Three words that are divine. And now, my dear, I'm waiting to hear these words that show me that you're mine, yeah. Mm-hmm. that I can say. I love you, babe, I love you. The same old words I'm saying in the same old way. I love you, really love you. Three words that are divine. And now, my dear, I'm waiting to hear these words that show me that you're mine. I love you, baby.
Love You du University Hot Jazz Band de Nantes, qui sera notamment présent lors du concert à 17h samedi à l'école Alain. La billetterie pour les concerts du samedi soir est à retrouver à l'office de tourisme de Laval, à la librairie Emnir de Laval ou directement auprès de l'association Jazz Oignon, qui est d'ailleurs toujours à la recherche de quelques bénévoles pour ce week-end. Info par mail à jazzoignon@laposte.net. Cap sur Caussée-le-Vivien désormais au musée Robert Tatin, où l'artiste a construit une sculpture monumentale et vécu les dernières années de sa vie. Mais là, en plus de ses œuvres, on vous propose de regarder vers le ciel avec la Nuit des Étoiles. Elle est organisée le vendredi 27 août à partir de 20h. Une observation qui vous permettra bien sûr d'en savoir plus sur l'astronomie, mais aussi de faire le lien avec l'un des thèmes de prédilection de l'artiste.
Je suis Bruno Godivier, je suis le responsable du musée. Robert Tatin s'est passionné tout au long de sa vie pour l'espace, pour l'astronomie. Il a essayé de comprendre comment fonctionnait l'univers. Et ça a influencé son travail, ça a influencé ses œuvres, que ce soit les peintures, que ce soit les céramiques ou ses sculptures. C'est vraiment un domaine qu'il a toujours porté, on va dire, vers la création, vers l'imaginaire. Pour lui, l'espace, c'est vraiment un livre ouvert sur l'inconnu, et donc un livre à comprendre, à décrypter, mais qui réveille aussi et la méditation et le rêve. L'intérieur du musée, le jardin de méditation est orienté, hein, puisqu'on a ce monument qui se dresse juste en face de nous, au nord, qu'il appelle Notre-Dame Tout-le-Monde. C'est une sorte de menhir, d'obélisque, de totem. Et puis, ce musée est orienté est-ouest. À l'est, on a la Porte du Soleil, avec le soleil levant tous les matins. Et puis, à l'ouest, au couchant, la Porte de la Lune, avec cette fois plutôt un rappel de ses voyages en Amérique du Sud. Et puis, il a donné un sens de lecture autour du bassin central, en forme de croix, une lecture d'est en ouest, dans le sens de rotation du cadran solaire. Donc là, vous voyez qu'on retrouve encore cette passion pour l'astronomie. Et dans son musée, Robert Tatin essaie vraiment de changer d'échelle. Il essaie de nous donner l'échelle de l'univers. Et d'un seul coup, en entrant dans son musée, eh bien, on grandit, on se grandit à la taille de l'infini, du cosmos.
Je suis Marie-Vonne Gauthier, donc je suis présidente de l'association LAPAM, donc Association pour la promotion et l'animation du musée, présidente depuis 2020. En fait, le musée, je le connais depuis assez longtemps, depuis une quarantaine d'années. Ensuite, j'étais élue à la commune de Caussée-le-Vivien. J'ai peut-être appris aussi à connaître davantage le musée. J'étais dans l'association, de par mes fonctions d'élue. Bah, de fil en aiguille, je suis devenue présidente de l'association. Voilà, le faire connaître et puis le faire rayonner, quoi. C'est vraiment un lieu tellement extraordinaire. Dernièrement, j'ai reçu quelqu'un qui venait du sud de la France. Je l'ai invité à venir au musée. Il était tout à fait conquis et il reviendra.
Cette nuit des étoiles, elle va avoir lieu fin août. Comment ça va se passer très concrètement?
Alors, très concrètement, la soirée va débuter vers 20h. Il y aura des animations au départ, notamment par l'appel des planches. Il y aura des lectures de textes de Robert Tatin. L'appel des planches est une association de théâtre de la commune de Caussée-le-Vivien. Donc une lecture théâtralisée de quelques extraits de textes. Et puis il y aura l'intervention de la section astronomie de Mayenne Nature Environnement, avec des animateurs qui proposeront une observation du ciel à l'aide de télescopes et de matériel adapté tout au long de la soirée. Alors, ça se déclinera sur plusieurs créneaux, 20h, 21h30, 21h30, 22h30 et 22h30, 23h30, tout au long de la soirée. C'est sur réservation. Il y a un lien pour s'inscrire, pour réserver sa place sur le site du musée. Oh, il y a beaucoup d'idées, notamment avec des gens qui ont bien connu aussi Robert Tatin, qui ont vraiment envie de faire connaître la pensée de l'artiste. Et puis, donc les idées de projet sont là. Maintenant, la réalisation là, concrète, c'est à mettre en œuvre. On y a travaillé depuis l'année dernière. Ça s'est un petit peu imposé parce que les étoiles, le cosmos, enfin comme vous l'a expliqué Monsieur Godivier, donc c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans l'œuvre. Donc on a choisi ça pour cette première animation. Je pense que c'est aussi découvrir une facette du musée, peut-être un petit peu moins connue, hein, on va dire, avec justement la présence de Mayenne Astronomie, des passionnés qui vont savoir nous expliquer, nous faire une lecture du ciel.
Là, le musée ne sera pas accessible, enfin ne sera pas visitable, on va dire, ce soir-là. Ce qui est important, c'est de trouver justement ce lien entre les œuvres de Robert Tatin et l'astronomie. Robert Tatin observait lui-même l'espace. On continue d'avoir dans nos collections et dans une des salles du musée sa lunette astronomique. Le lien se fait de plein de manières. Donc je pense que ça s'adresse à la fois à ceux qui connaissent les œuvres de Robert Tatin et à ceux qui ne les connaissent pas et qui vont peut-être les découvrir effectivement par le biais ou avoir envie de les découvrir par le biais de cette soirée.
Plus sur le musée en général, ceux qui ne connaissent pas du tout, à quoi il ressemble déjà ce musée quand on arrive ?
Alors c'est difficile de le décrire. Robert Tatin, c'est un artiste qui a une carrière d'artiste très complète, surtout à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a fréquenté les milieux artistiques parisiens, il a voyagé en Amérique du Sud pendant 5 ans. Il a accumulé en fait des découvertes, des connaissances. Ce musée, c'est, on va dire, un hymne à l'humanité, c'est-à-dire qu'il essaie de trouver des carrefours entre toutes les cultures, entre toutes les civilisations. Ça passe par l'histoire, les légendes, les philosophies, les religions. Il essaie que chacun puisse aborder cette œuvre très humaniste, le plus simplement possible. Alors, c'est aussi une œuvre qui est quand même très positive, puisque c'est une œuvre qu'il a décidé de placer à la campagne. On est à Cossé-le-Vivien, mais un petit peu en dehors du bourg, à 2 kilomètres du bourg. Donc, il a choisi ce lieu bocager, ce lieu verdoyant. Il y a cette relation à la nature, il y a cette relation à l'espace, on en parlait tout à l'heure, cette relation aux éléments, à l'eau, l'air, le feu. C'est vraiment cette vie que Robert Tatin essaie de nous dévoiler à travers cette œuvre. Alors, la maison, il l'a acquise et il a immédiatement commencé à réaliser son musée. Alors, il a eu un long travail de céramiste, de modeleur, de sculpteur, en plus de son activité de peintre qui lui permettait de vivre. L'allée des géants et qui mène au cœur du musée, effectivement, est bordée de personnages importants pour Robert Tatin. Ce sont en grande partie des artistes qui l'ont intéressé, qui l'ont inspiré, qui ont marqué le XXe siècle artistique. Et puis, tous ces personnages, eh bien, c'est un moyen pour lui aussi de nous placer dans le monde du vivant. Les hommes, les humains, ce sont des yeux qui nous regardent, des bouches qui nous sourient, et puis qui nous racontent des histoires. On retrouve aussi bien les mythologies lointaines que des éléments presque anecdotiques du quotidien, des éléments qu'on connaît tous, et puis aussi des événements historiques.
Juste pour donner un peu les dimensions de cette sculpture monumentale, on est à l'intérieur, elle fait combien de mètres ?
Alors en tout, elle fait 1200 mètres carrés précisément. On peut découvrir autour de ce bassin des salles, et à l'intérieur, on peut découvrir des peintures, des céramiques, des lithographies, d'autres œuvres de Robert Tatin. C'est un artiste extrêmement prolifique, il a réalisé une œuvre très très riche et il s'est dit, ben voilà, je n'ai pas que la sculpture, j'ai plein de cordes à mon arc, je vais en faire profiter tout le monde. On a notamment une grande salle de peinture qui est vraiment le point culminant de son œuvre.
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 19h sur présentation du pass sanitaire. Pour la nuit des étoiles, le 27 août, l'entrée est gratuite sur réservation en ligne. Encore une belle programmation pour cette semaine du 19 au 27 août dans le département. L'émission est finie pour aujourd'hui évidemment puisqu'on revient jeudi prochain à la même heure à 13h. D'ici là, passez une très belle semaine.
C'est l'été sur l'autre radio.